Livre deuxième, La faute de l'abbé Mouret, chapitre 9. Le lendemain matin, Albine voulut partir dès le lever du soleil pour la grande promenade qu'elle ménageait depuis la veille. Elle tapait des pieds joyeusement, elle disait qu'elle ne rentrerait pas de la journée. « Où me mènes-tu donc ?» demanda Serge.
« Tu verras, tu verras. »
Mais il la prit par les poignets, la regarda en face. Il faut être sage, n'est-ce pas? Je ne veux pas que tu cherches ni ta clairière, ni ton arbre, ni ton herbe où l'on meurt. Tu sais que c'est défendu. Elle rougit légèrement en protestant, en disant qu'elle ne songeait pas même à ces choses, puis elle ajouta « Pourtant, si nous trouvions sans chercher, par hasard, est-ce que tu ne t'assoirais pas? Tu m'aimes donc bien peu ?» Ils partirent. Ils traversèrent le parterre tout droit sans s'arrêter au réveil des fleurs nues dans leur bain de rosée. Le matin avait un teint de rose, un sourire de bel enfant ouvrant les yeux au milieu des blancheurs de son oreiller. « Où me mènes-tu ? » répétait Serge. Et Albine riait sans vouloir répondre. Mais comme ils arrivaient devant la nappe d'eau qui coupait le jardin au bout du parterre, elle resta toute consternée. La rivière était encore gonflée des dernières pluies.
« Nous ne pourrons jamais passer, » murmura-t-elle. « J'ôte mes souliers, je relève mes jupes d'ordinaire, mais aujourd'hui nous aurions de l'eau jusqu'à la taille. »
Ils longèrent un instant la rive, cherchant un guet. La jeune fille disait que c'était inutile, qu'elle connaissait dans tous les trous. Autrefois, un pont se trouvait là. Un pont dont l'écroulement avait semé la rivière de grosses pierres entre lesquelles l'eau passait avec des tourbillons d'écume.
« Monte sur mon dos, » dit Serge.
« Non, non, je ne veux pas. Si tu venais à glisser, nous ferions un fameux plongeon tous les deux. Tu ne sais pas comme ces pierres-là sont traîtres. »«
Monte donc sur mon dos. »
Cela finit par la tenter. Elle prit son élan, sauta comme un garçon, si haut qu'elle se trouva à califourchon sur le cou de Serge. Et le sentant chanceler, elle cria qu'il n'était pas encore assez fort, qu'elle voulait descendre. Puis elle sauta de nouveau à deux reprises. Ce jeu les ravissait. « Quand tu auras fini, » dit le jeune homme qui riait. « Maintenant tiens-toi ferme, c'est le grand coup. » Et en trois bonds légers, il traversa la rivière, la pointe des pieds à peine mouillée. Au milieu pourtant, Albine crut qu'il glissait. Elle eut un cri en se rattrapant des deux mains à son menton. Lui l'emportait déjà dans un galop de cheval sur le sable fin de l'autre rive.
« Uhuhu !» criait-elle, rassurée, amusée par ce jeu nouveau.
Il courut ainsi, tant qu'elle voulut, tapant des pieds, imitant le bruit des sabots. Elle claquait de la langue. Elle avait pris deux mèches de ses cheveux qu'elle tirait comme des guides pour le lancer à droite ou à gauche.
« Là, là, nous y sommes !»
dit-elle en lui donnant de petites claques sur les joues. Elle sauta à terre tandis que lui, en sueur, s'adossait contre un arbre pour reprendre haleine. Alors elle le gronda. Elle menaça de ne pas le soigner s'il retombait malade.
« Laisse donc, ça m'a fait du bien, » répondit-il.
« Quand j'aurai retrouvé toutes mes forces, je te porterai des matinées entières.
Où me mènes-tu ? »
« Ici. » dit-elle en s'asseyant avec lui sous un gigantesque poirier. Ils étaient dans l'ancien verger du parc. Une haie vive d'aubépines, une muraille de verdure trouée de brèches, mettaient là un bout de jardin à part. C'était une forêt d'arbres fruitiers que la serpe n'avait pas taillée depuis un siècle. Certains troncs se déjetaient puissamment, poussés de travers sous les coups d'orage qui les avaient pliés, tandis que d'autres, bossués de nœuds énormes, crevassés de cavités profondes, ne semblaient plus tenir au sol que par les ruines géantes de leurs écorces. Les hautes branches que le poids des fruits courbait à chaque saison étendaient au loin des raquettes démesurées. Même les plus chargées qui avaient cassé touchaient la terre sans qu'elles eussent cessé de produire, raccommodées par d'épais bourrelets de sève. Entre eux, les arbres se prêtaient des étais naturels n'étaient plus que des piliers tordus soutenant une voûte de feuilles qui se creusait en longues galeries, s'élançait brusquement en halles légères, s'aplatissait presque au ras du sol en soupente effondrée.
Autour de chaque colosse, des rejets sauvages faisaient des taillis, ajoutés l'emmêlement de leurs jeunes tiges, dont les petites baies avaient une greur exquise. Dans le jour verdâtre qui coulait comme une eau claire, dans le grand silence de la mousse, retentissait seule la chute sourde des fruits que le vent cueillait. Et il y avait des abricotiers patriarches qui portaient gaillardement leur grand âge, paralysés déjà d'un côté, avec une forêt de bois morts, pareille à un échafaudage de cathédrale, mais si vivant que leur autre moitié si jeune, que des pousses tendres faisaient éclater l'écorce rude de toutes parts. Des pruniers vénérables, tout chenus de mousse, grandissaient encore pour aller boire l'ardent soleil sans qu'une seule de leurs feuilles pâlît. Des cerisiers bâtissaient des villes entières, des maisons à plusieurs étages, jetant des escaliers, établissant des planchers de branches larges à y loger 10 familles. Puis, c'étaient des pommiers, les reins cassés, les membres contournés comme de grands infirmes, la peau racheuse maculée de rouille verte, des poiriers lisses, dressant une mâture de hautes tiges minces, immenses, semblables à l'échappée d'un porc, rayant l'horizon de barres brunes. Des pêchers rosâtres se faisaient faire place dans l'écrasement de leurs voisins par un rire aimable et une poussée lente de belles filles égarées au milieu d'une foule. Certains pieds, anciennement en espalier, avaient enfoncé les murailles basses qui les soutenaient. Maintenant, ils se débauchaient libres des treillages dont les lambeaux arrachés pendaient encore à leurs bras. Ils poussaient à leur guise, n'ayant conservé de leur taille particulière que des apparences d'arbres comme il faut, traînant dans le vagabondage les loques de leurs habits de gala. Et à chaque tronc, à chaque branche, d'un arbre à l'autre, couraient des débandades de vignes. Les ceps montaient comme des rires fous, s'accrochaient un instant à quelques nœuds élevés, puis repartaient en un rejaillissement de rires plus sonores, éclaboussant tous les feuillages de l'ivresse heureuse des pampres. C'était un vert tendre, doré de soleil, qui allumait d'une pointe d'ivrognerie les têtes ravagées des grands vieillards du verger. Puis, vers la gauche, des arbres plus espacés, des amandiers au feuillage grêle laissaient le soleil mûrir à terre des citrouilles pareilles à des lunes tombées. Il y avait aussi, au bord d'un ruisseau qui traversait le verger, des melons couturés de verrues, perdus dans des nappes de feuilles rampantes ainsi que des pastèques vernies d'un ovale parfait d'œuf d'autruche. À chaque pas, des buissons de groseilliers barraient les anciennes allées, montrant les grappes timides de leurs fruits, des rubis dont chaque grain s'éclairait d'une goutte de jour. Des haies de framboisiers s'étalaient comme des ronces sauvages, tandis que le sol n'était plus qu'un tapis de fraisiers, une herbe toute semée de fraises mûres dont l'odeur avait une légère fumée de vanille. Mais le coin enchanté du verger était plus à gauche encore, contre la rampe des rochers, qui commençait là à escalader l'horizon. On entrait en pleine terre ardente dans une serre naturelle où le soleil tombait d'aplomb. D'abord, il fallait traverser des figuiers gigantesques, déguingandés, étirant leurs branches comme des bras grisâtres las de sommeil, si obstrués du cuir velu de leurs feuilles qu'on devait pour passer casser les jeunes tiges repoussant des pieds séchés par l'âge. Ensuite, on marchait entre des bouquets d'arbousiers, d'une verdure de buis géant que leurs baies rouges faisaient ressembler à des maïs ornés de pompons de soie écarlate. Puis venait une futaie d'alisiers, d'azuroliers, de jujubiers, au bout de laquelle des grenadiers mettaient une lisière de touffes éternellement vertes, les grenades se nouaient à peine, grosses comme un poing d'enfant. Les fleurs de pourpre, posées sur le bout des branches, paraissaient avoir le battement d'ailes des oiseaux des îles qui ne courbent pas les herbes sur lesquelles ils vivent. Et l'on arrivait enfin à un bois d'orangers et de citronniers poussant vigoureusement en pleine terre. Les troncs droits enfonçaient des enfilades de colonnes brunes. Les feuilles luisantes mettaient la gaieté de leur claire peinture sur le bleu du ciel, découpaient l'ombre nettement en minces lames pointues qui dessinaient à terre les millions de palmes d'une étoffe indienne. C'était un ombrage au charme tout autre, auprès duquel les ombrages du verger d'Europe devenaient fades. Une joie tiède de la lumière tamisée en une poussière d'or volante, une certitude de verdure perpétuelle, une force de parfum continu, le parfum pénétrant de la fleur,
le parfum plus grave du fruit donnant aux membres la souplesse pâmée des pays chauds.
« Et nous allons déjeuner !»
cria Albine en tapant dans ses mains.
« Il est au moins 9 heures, j'ai une belle faim !»
Elle s'était levée. Serge confessait qu'il mangerait volontiers lui aussi.
« Grand bêta !» reprit-elle. « Tu n'as donc pas compris que je te menais déjeuner ? Hein ? Nous ne mourrons pas de faim ici, tout est pour nous !»
Ils entrèrent sous les arbres, écartant les branches, se coulant au plus épais des fruits. Albine, qui marchait la première, les jupes entre les jambes, se retournait, demandant à son compagnon de sa voix flûtée
« Qu'est-ce que tu aimes, toi ? Les poires, les abricots, les cerises, les groseilles ? Je te préviens que les poires sont encore vertes, mais elles sont joliment bonnes tout de même. »
Serge se décida pour les cerises. Albine dit qu'en effet, on pouvait commencer par là. Mais comme ils allaient sautement grimper sur le premier cerisier venu, elle lui fit faire encore 10 bonnes minutes de chemin au milieu d'un gâchis épouvantable de branches. Ce cerisier-là avait de méchantes cerises de rien du tout. Les cerises de celui-ci étaient trop aigres. Les cerises de cet autre ne seraient mûres que dans 8 jours. Elle connaissait tous les arbres.
« Tiens, monte là-dedans, » dit-elle enfin,
en s'arrêtant devant un cerisier si chargé de fruits que des grappes pendaient jusqu'à terre comme des colliers de corail accrochés. Serge s'établit commodément entre 2 branches et se mit à déjeuner. Il n'entendait plus Albine. Il la croyait dans un autre arbre, à quelques pas, lorsque, baissant les yeux, il l'aperçut tranquillement couchée sur le dos au-dessous de lui. Elle s'était glissée là, mangeant sans même se servir des mains, happant des lèvres les cerises que l'arbre tendait jusqu'à sa bouche. Elle se vit découverte, elle eut des rires prolongés, sautant sur l'herbe comme un poisson blanc sorti de l'eau, se mettant sur le ventre, rampant sur les coudes, faisant le tour du cerisier, tout en continuant à happer les cerises les plus grosses.
« Figure-toi, elle me chatouille !» criait-elle. « Tiens, en voilà encore une qui vient de me tomber dans le cou. C'est qu'elles sont joliment fraîches. Moi, j'en ai dans les oreilles, dans les yeux, sur le nez, partout. Si je voulais, j'en écraserais une pour me faire des moustaches. Elles sont bien plus douces en bas qu'en haut.
« Allons donc, » dit Serge en riant. « C'est que tu n'oses pas monter. » Elle resta muette d'indignation.
« Moi ? Moi ? » balbutia-t-elle.
Et serrant sa jupe, la rattachant par devant à sa ceinture, sans voir qu'elle montrait ses cuisses, elle prit l'arbre nerveusement, se hissa sur le tronc d'un seul effort des poignets. Là, elle courut le long des branches en évitant même de se servir de ses mains. Elle avait des allongements souples d'écureuil, elle tournait autour des nœuds, lâchait les pieds, tenait seulement en équilibre par le pli de la taille. Quand elle fut tout en haut, au bout d'une branche grêle que le poids de son corps secouait furieusement,
« Eh bien » cria-t-elle, « est-ce que j'ose monter ?»«
Veux-tu vite descendre ?» implorait Serge, pris de peur. « Je t'en prie, tu vas te faire mal !» Mais triomphante, elle alla encore plus haut. Elle se tenait à l'extrémité même de la branche à califourchon, s'avançant petit à petit au-dessus du vide, empoignant des 2 mains des touffes de feuilles. « La branche va casser, » dit Serge éperdu.
« Qu'elle casse, pardi !»
répondit-elle avec un grand rire.
« Ça m'évitera la peine de descendre !»
Et la branche cassa en effet, mais lentement, avec une si longue déchirure qu'elle s'abattit peu à peu comme pour déposer Albine à terre d'une façon très douce. Elle n'eut pas le moindre effroi. Elle se renversait, elle agitait ses cuisses demi-nues en répétant
« C'est joliment gentil, on dirait une voiture !»
Serge avait sauté de l'arbre pour la recevoir dans ses bras. Comme il restait tout pâle de l'émotion qu'il venait d'avoir, elle le plaisanta.
« Mais ça arrive tous les jours de tomber des arbres. Jamais on ne se fait mal. Ris donc, gros bêta. Tiens, mets-moi un peu de salive sur le cou. Je me suis égratignée. »
Il lui mit un peu de salive du bout du doigt.
« Là, c'est guéri !»
cria-t-elle en s'échappant avec une gambade de gamine.
Nous allons jouer à cache-cache, veux-tu ?
Elle se fit chercher. Elle disparaissait et jetait le cri
« Coucou ! Coucou !»
du fond des verdures connues d'elle seule où Serge ne pouvait la trouver. Mais ce jeu de cache-cache n'allait pas sans une maraude terrible de fruits.
Le déjeuner continuait dans les coins où les deux grands enfants se poursuivaient. Albine, tout en filant sous les arbres, allongeait la main, croquait une poire verte, s'emplissait la jupe d'abricots. Puis, dans certaines cachettes, elle avait des trouvailles qu'il asseyait par terre, oubliant le jeu, occupé à manger gravement. Un moment, elle n'entendit plus Serge. Elle dut le chercher à son tour. Et ce fut pour elle une surprise, presque une fâcherie, de le découvrir sous un prunier qu'elle-même ne savait pas là et dont les prunes mûres avaient une délicate odeur de musc. Elle le querella de la belle façon. « Voulait-il donc tout avaler qu'il n'avait soufflé mot ?» Il faisait la bête, mais il avait le nez fin. Il sentait de loin les bonnes choses. Elle était surtout furieuse contre le prunier, un arbre sournois qu'on ne connaissait seulement pas, qui devait avoir poussé là dans la nuit pour ennuyer les gens. Serge, comme elle boudait, refusant de cueillir une seule prune, imagina de secouer l'arbre violemment. Une pluie de grêle de prunes tomba. Albine, sous l'averse, reçut des prunes sur les bras, des prunes dans le cou, des prunes au beau milieu du nez. Alors elle ne put retenir ses rires. Elle resta dans ce déluge, criant « Encore, encore !» amusée par les balles rondes qui rebondissaient sur elle, tendant la bouche et les mains, les yeux fermés, se pelotonnant à terre pour se faire toute petite. Matinée d'enfance, polissonnerie de galopins lâchée dans le paradou. Albine et Serge passèrent là des heures puériles d'école buissonnière, à courir, à crier, à se taper, sans que leur chair innocente eût un frisson. Ce n'était encore que la camaraderie de deux garnements qui songeraient peut-être plus tard à se baiser sur les joues lorsque les arbres n'auront plus de dessert à leur donner. Et quel joyeux coin de nature pour cette première escalade! Un trou de feuillage avec des cachettes excellentes, des sentiers le long desquels il n'était pas possible d'être sérieux tant les haies laissaient tomber de rires gourmands. Le parc avait dans cette heureux verger une gaminerie de buissons s'en allant à la débandade, une fraîcheur d'ombre invitant à la faim, une vieillesse de bon arbre pareille à des grands-pères pleins de gâteries. Même au fond des retraites vertes de mousse, tous les troncs cassés qui les forçaient à ramper l'un derrière l'autre dans des corridors de feuilles, si étroits que Serge s'attelait en riant aux jambes nues d'Albine, ils ne rencontraient point la rêverie dangereuse du silence. Rien de troublant ne leur venait du bois en récréation. Et quand ils furent là des abricotiers, des pruniers, des cerisiers, ils coururent sous les amandiers grêles, mangeant les amandes vertes, à peine grosses comme des pois, cherchant les fraises parmi le tapis d'herbe, se fâchant de ce que les pastèques et les melons n'étaient pas mûrs. Albine finit par courir de toutes ses forces, suivie de Serge qui ne pouvait l'attraper. Elle s'engagea dans les figuiers, sautant les grosses branches, arrachant les feuilles qu'elle jetait par derrière à la figure de son compagnon. En quelques bonds, elle traversa les bouquets d'arbousiers dont elle goûta en passant les baies rouges, et ce fut dans la futaie des alisiers, des azuroliers et des jujubiers que Serge la perdit. Il la crut d'abord cachée derrière un grenadier, mais c'était deux fleurs en boutons qu'il avait pris pour les deux nœuds roses de ses poignets. Alors il battit le bois d'oranger, ravi du beau temps qu'il faisait, s'imaginant entrer dans l'effet du soleil. Au milieu du bois, il aperçut Albine qui, ne le croyant pas si près d'elle, furetait vivement, fouillait du regard les profondeurs vertes. « Qu'est-ce que tu cherches donc là ? » s'écria-t-il. « Tu sais bien que c'est défendu. » Elle eut un sursaut. Elle rougit légèrement pour la première fois de la journée. Et s'asseyant à côté de Serge, elle lui parla des jours heureux où les oranges mûrissaient. Le bois alors était tout doré, tout éclairé de ces étoiles rondes qui criblaient de leurs yeux jaunes la voûte verte. Puis, quand ils s'en allèrent enfin, elle s'arrêta à chaque rejet sauvage, s'emplissant les poches de petites poires âpres, de petites prunes aigres, disant que ce serait pour manger en route. C'était 100 fois meilleur que tout ce qu'ils avaient goûté jusque-là. Il fallait que Serge en avalât, malgré les grimaces qu'il faisait à chaque coup de dent. Ils rentrèrent éreintés, heureux, ayant tant ri qu'ils avaient mal aux côtes. Même ce soir-là, Albine n'eut pas le courage de remonter chez elle. Elle s'endormit au pied de Serge, en travers du lit, rêvant qu'elle montait aux arbres, achevant de croquer en dormant les fruits des sauvageons qu'elle avait cachés sous la couverture à côté d'elle.